Mais nous continuons de filer le thème du jour sur ces élections régionales avec vous, Thierry Garcin, pour les enjeux internationaux. Bonjour à vous.
Et bonjour, Marc Blanchet.
Et aujourd'hui, c'est politique régionale de l'Europe avec votre invité, François Bafoual.
Voilà, qui est François Bafoual, directeur de recherche au CNRS, également série Sciences Po. Alors, la première chose à dire, c'est que les pays européens pris séparément ont des politiques régionales très différenciées et leur confèrent des pouvoirs économiques, sociaux, voire politiques très différents d'un pays à l'autre. Cela s'explique par la géographie, par l'histoire, également par le cadre étatique, est-ce que ce sont des États-nations, des fédérations. Donc là, on est devant une grande complexité. Et puis, il faut rappeler que la CE, puis l'Union européenne, notamment grâce aux fameux fonds structurels, ont développé une véritable politique régionale percée en tant que telle. Et il faut inclure aussi le traité, les différents traités, notamment le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne récemment. En quoi est-ce que, et puis le dernier paramètre, en quoi est-ce que les élargissements, évidemment, influent sur la politique régionale de l'Union européenne. Des élargissements, somme toute, assez nombreux, puisqu'on est passé de donc 15 à 27 membres en une douzaine d'années, très récemment. Alors, très rapidement, donc, la notion de territoire est une notion clé pour vous, François Bafoual.
Bonjour.
Bonjour.
La notion de territoire, elle a émergé comme une catégorie centrale en raison... Enfin, elle est inscrite dans les traités fondateurs, bien entendu, mais elle est devenue une catégorie centrale de l'action publique et puis de la réflexion pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, on est passé très très vite finalement à l'Union 27 et ces 10 qui sont rentrés en 2004, 8 d'entre eux relevant de l'ancien Empire soviétique et 2 Bulgarie-Roumanie en 2007, accusent des disparités à l'intérieur de leur propre pays, mais surtout entre l'Est et l'Ouest, entre eux et l'Ouest, qui sont considérables. Un simple chiffre, avant 2004, les populations qui vivaient dans les 10% des régions les plus riches et les 10% des régions les plus pauvres, cet écart était de 1 à 3 à l'intérieur de l'Union à 15. Et maintenant, à l'Union à 27, l'écart est supérieur de 1 à 6.
Donc c'est dire on a doublé l'écart.
On a plus que doublé l'écart. C'est dire que la cohésion territoriale, ou plutôt la cohésion, ça n'est pas seulement la cohésion économique, la croissance et la cohésion sociale, l'emploi, la solidarité, mais c'est aussi la cohésion territoriale. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que cela pose la question fondamentale de finalement qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Derrière qui fait quoi ? C'est la subsidiarité. Est-ce que c'est à Bruxelles, en coopération avec les États, à énoncer la politique territoriale ? Parce qu'on voit bien que derrière cette politique territoriale, il y a l'idée de l'aménagement, du territoire, notion chère aux Français et connue des Français, mais qui est complètement rejetée soit par les Anglais d'un côté, soit par les pays anciennement, enfin les pays du centre, Est, de l'autre. Et le troisième point, donc, c'est la question de la subsidiarité, cette question de qui fait quoi. Il y a eu un rapport extrêmement important du conseiller Barca, qui vient d'être publié, indiquant, mettant la notion du territoire au cœur des réflexions et insistant sur ce qu'on appelle le place-based approach, c'est-à-dire d'insister sur la nécessité de déléguer aux régions et au local la mise en place de certains fonds, tandis que l'Union européenne, que Bruxelles, aurait à sa charge tout ce qui touche et qui ont des impacts territoriaux considérables, les migrations, l'énergie, toutes ces grandes questions climatique qui se pose maintenant pour nous.
Alors comment est-ce que ça s'est passé précisément dans un certain nombre de pays de l'Est, ou plutôt d'anciens pays de l'Est, en ce qui concerne la délimitation, le dessin des régions ? Et en quoi est-ce que ça interfère avec les pouvoirs centraux et avec les pouvoirs de Bruxelles et les différents instruments que l'Union européenne donc met en œuvre ?
Les politiques régionales, en termes de découpage institutionnel, elles sont très neuves, alors qu'elles sont assez anciennes chez nous et qu'elles sont lancées depuis les années 70-80, la France à partir des années 80.
Vous me disiez pour la Pologne, François Bafoual, pas plus de 10 ans, vers 99.
Non, la Pologne a été le premier pays à mettre en œuvre une politique, enfin une régionalisation, et d'ailleurs la mieux, la plus complète, le 1er janvier 1999. Là, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes parce que finalement, la Pologne est un pays très homogène. Du point de vue de sa population, ce qu'elle n'était pas évidemment avant 1939, à la différence de tous les autres qui l'entourent, notamment les pays baltes et les pays balkans. Les pays baltes avec Estonie, Lettonie, Lituanie, qui ont, eux, des minorités russes considérables et concentrées régionalement. Donc il ne s'agissait pas pour ces nouveaux États centraux de déléguer à des ensembles régionaux des capacités qui auraient permis justement à ces anciennes minorités dominantes de reprendre du pouvoir. Et en ce qui concerne les pays balkans, à savoir Bulgarie, Roumanie, elles ne font pas face, eux, aux minorités russes, mais elles font face à des minorités turques pour la Bulgarie ou hongroises pour ce qui est de la Roumanie. Absolument. Donc la question des régions, c'est-à-dire de la délégation de pouvoir à des unités sub-étatiques, s'est posée d'une manière tout à fait différente qu'à l'Ouest. Et finalement, je conclue, c'est finalement la Pologne, avec ses 16 régions, qui a réussi non seulement une régionalisation, mais une décentralisation.
Alors juste d'un mot, on peut rappeler quand même l'évolution des instruments que l'Union européenne met en œuvre pour donc sa politique régionale.
Bien sûr.
Alors, juste d'un mot, comment est-ce qu'ils ont évolué ?
Alors d'un mot, il y a maintenant trois objectifs. Il y a l'objectif de convergence qui s'adresse aux États dont les régions ont des PIB, c'est-à-dire des productions intérieures brutes inférieures à 75% de la moyenne européenne, c'est-à-dire finalement le sud portugais, le Portugal, les fameux pays de la cohésion, Portugal, sud espagnol, Mezzogiorno italien et Grèce, auquel s'est ajouté l'ensemble des nouveaux entrées, c'est-à-dire les 10 nouveaux pays membres. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'objectif de convergence qui regroupe environ 81% du budget de la politique régionale. Et puis, il y a un objectif de compétitivité d'emploi, environ 15% du budget. Et puis, et on en revient à la question territoriale, ce nouvel objectif de coopération territoriale qui reprend en quelque sorte l'ancien outil d'initiative communautaire Interreg et qui vise principalement les coopérations transfrontalières, parce qu'évidemment avec l'augmentation des pays et l'augmentation des territoires, les frontières sont devenues un enjeu considérable de reconnexion finalement des territoires. Donc coopération transfrontalière, qui est la plus importante partie de ce fonds de coopération territoriale, trans-régional et trans-national.
On va terminer, François Bafoual, par juste un chiffre que représente dans le budget donc, de l'Union européenne, dans les dépenses, les fonds structurels.
Ben, les fonds structurels, juste la politique régionale, c'est 36% du budget. Vous comprenez bien que maintenant, elle est en question parce que se pose le grand débat sur la question du budget européen, la remise à plat de la PAC, la remise à plat du rabais anglais et la politique régionale. Et je conclue d'un mot, la rénovation de la politique agricole aura un impact considérable sur les régions.
Voilà, donc on peut réécouter l'émission puisqu'il y a eu beaucoup de données très importantes, franceculture.com, et puis nous retrouvons Marc du studio lundi à propos d'ailleurs d'un pays directement concerné par cela, la Grèce, mais à cause des circonstances actuelles
dont on connaît l'actualité brûlante. Merci Thierry Garcin, passez une bonne fin de semaine, à lundi.
À vous aussi Marc.